Le Mali continue de défendre sa souveraineté et son indépendance face au bloc occidental, comprenant la France, les États-Unis ou encore la CEDEAO. Suivre les exigences du peuple malien, c'est exactement la voie que prennent les autorités maliennes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué vendredi dernier la nouvelle loi électorale dont l'adoption avec 92 amendements a suscité de vives tensions entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette décision a été prise pendant que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était en visite au Mali. Durant une semaine, les tensions étaient palpables entre le Conseil national de transition et le gouvernement après l'adoption de la nouvelle loi électorale avec 92 amendements. C'est le président de la transition qui devait départager les deux institutions. Il devait choisir entre donc la promulgation de la loi ou son renvoi pour une seconde lecture. Et le verdict est tombé. Vendredi dernier, le colonel Assimi Goïta a finalement promulgué le projet de loi adopté par le Conseil national de transition. Pour beaucoup, le gouvernement a bien joué son rôle, comme le CNT d'ailleurs, et certains observateurs estiment que le président de la transition devait promulguer cette loi pour montrer la bonne foi du Mali au chef d'État de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a en effet exigé des autorités de la transition du Mali de lui soumettre un chronogramme détaillé de fin de la transition. Le Mali pouvait-il élaborer un chronogramme avec l'ancienne loi électorale qui permettait donc aux Occidentaux d'avoir une main mise sur le pouvoir au Mali? Eh bien non. Il fallait forcément une nouvelle loi électorale. D'ailleurs, selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, il est difficile de soumettre à la CEDEAO un chronogramme détaillé sans la nouvelle loi électorale qui a passé 7 mois sur la table du Conseil national de la transition. Donc, pour convaincre le chef donc d'État de la CEDEAO de la bonne foi des autorités maliennes pour un retour à l'ordre constitutionnel, il était raisonnable que le président de la transition promulgue cette loi. Cette promulgation, donc ajoutée à la fixation de la durée de la transition à 24 mois, comptée du mois de mars dernier, à la création de la commission de l'élaboration de la nouvelle constitution au Mali, au début des concertations avec la classe politique et de la société civile, pourrait donc convaincre les chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est d'ailleurs le cas. Nous sommes heureux de constater les progrès effectués jusqu'ici par le gouvernement sous la haute autorité du président de la transition. Je suis convaincu que très bientôt, les populations maliennes vont se rendre compte du travail abattu par les autorités au Mali pour atteindre ce niveau progrès donc réalisé dans la marche de la transition. Cette déclaration était du médiateur de la CEDEAO, ce qui constitue être une preuve. Le gouvernement a fait une proposition qui lui semblait bonne pour le Mali. Le CNT, à son tour, a fait des amendements pour rendre la loi meilleure. Chacun d'eux ont donc fait son devoir et le président de la transition a promulgué la dite loi pour la levée rapide des sanctions contre le Mali. Le temps n'est pas propice à une crise au sommet de l'État, alors que les organes comme la CEDEAO ou la communauté occidentale ne comprennent pas que le Mali doit tout d'abord sécuriser son territoire. Les défis sont énormes et les attentes donc des populations sont nombreuses. Les deux institutions, gouvernement et CNT, doivent évoluer ensemble pour la réussite de la transition. Les nombreuses tentatives de la communauté internationale pour instaurer des divisions au sein des autorités maliennes ont finalement été donc un échec. Attendons de voir ce que la CEDEAO peut encore prétexter pour continuer de préserver le régime de sanctions contre le peuple malien. Les États-Unis sont-ils vraiment aptes à diriger le monde comme ils le prétendent? Le secrétaire adjoint au commerce, Don Graves, était face aux médias dans le cadre du point de presse numérique organisé par le Centre Média Régional d'Afrique du département d'État des États-Unis le mardi 21 juin. Le secrétaire Graves donc a parlé de l'engagement donc de son pays à renforcer ses liens commerciaux et d'investissement à travers l'Afrique. Il estime que le respect mutuel et la prospérité seront la clé de ce partenariat avec l'Afrique. À en croire le secrétaire adjoint, les États-Unis donc voient l'Afrique comme une énorme opportunité de partenariat, de croissance économique qui, selon lui, est une question de mutualité. Il s'agit pour lui d'un partenariat partagé qui vise à fournir l'investissement des ressources, le savoir-faire, les compétences pour que l'Afrique puisse continuer à croître afin de trouver la stabilité et être un partenaire économique à long terme pour les États-Unis. C'est tout ce que nous demandons, explique-t-il. Le conférencier a fait savoir qu'il dispose d'un certain nombre d'outils qu'il utilise pour stimuler son engagement commercial en Afrique, dont l'initiative Prosper Africa, qui se concentre sur l'augmentation du commerce bilatéral entre les États-Unis et de nombreux pays du continent. Depuis son lancement en juin 2019, cela a déjà généré 50 milliards de dollars d'engagements commerciaux directs, de partenariats commerciaux directs dans 45 pays différents du continent. Il y a également Power Africa qui s'attache à aider le continent à faire donc la transition vers un endroit où il dispose du type d'infrastructure électrique dont il a besoin, pas seulement pour s'assurer que chaque communauté est connectée comme elle le souhaite, mais aussi pour passer à un avenir axé sur les énergies renouvelables pour réduire l'impact du changement climatique, et cela a déjà eu un impact énorme, explique-t-il. Le pays a aidé donc à créer 1,3 gigawatts ou 1300 mégawatts de nouvelles électricités pour le continent, dont 95% proviennent de la source renouvelable. Il se réjouit de voir ce que cela a eu un impact énorme sur la réduction de la dépendance du charbon, en supprimant environ 6,8 milliards de livres de charbon de la production, ce qui signifie que nous réduisons cet impact sur le climat, améliorant donc bien l'environnement, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le secrétaire adjoint en commerce dira que son département est sur le point d'annoncer sa nouvelle cohorte donc du conseil consultatif du président sur la conduite des affaires en Afrique. Pour rappel, les États-Unis se sont engagés à travailler avec les gouvernements africains en utilisant donc l'AFC, FTA, l'AGOA, Prosper Africa, Power Africa, la PAC DBA, donc le conseil consultatif du président pour faire des affaires en Afrique, et tous les différents outils du gouvernement fédéral pour développer son commerce, à la fois bilatéral et le travail que le pays fait de manière multilatérale à travers le continent. Mais tout le monde le sait, toutes ces initiatives apportent seulement des bénéfices pour les États-Unis et jamais pour l'Afrique. Les États-Unis donc veulent détruire le monde pour récupérer leur hégémonie. L'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, tous les continents à travers le monde sont touchés par la politique de Washington qui cherche en fait à affaiblir les puissances dans le monde afin de garder leur hégémonie. Mais là où Washington veut frapper fort, c'est quand même en Afrique. Et en effet, on ne s'en rend pas bien compte, mais l'Afrique reste le continent le plus stratégique aux yeux des États-Unis et des Occidentaux en général. L'offensive américaine sur le continent est très remarquée, donc en Afrique de l'Ouest, centrale et dans la Corne de l'Afrique. Le monopole des eaux, la recolonisation des territoires, extension des bases militaires américaines de l'Africom, ingérence en tout genre et surtout l'appauvrissement du continent font partie des politiques américaines en Afrique. On a pu constater par exemple ces dernières années que Washington et ses alliés européens veulent prendre le monopole des eaux et surtout celui du golfe de Guinée. Et ces dernières années, Washington a montré une présence accrue de navires de guerre dans le golfe de Guinée. En plus, on voit également, comme par le plus grand des hasards, une montée de la piraterie dans la région. Ce qui justifie bien sûr la présence des navires militaires américains et européens dans les eaux du golfe de Guinée. Et la piraterie était surtout concentrée du côté du golfe d'Aden et dans l'océan Indien, au large de la Somalie. Mais maintenant, comme par miracle, le problème de la piraterie s'est arrangé dans la région de la Corne pour visiblement s'implanter dans le golfe de Guinée. Tout comme le terrorisme de Daesh, Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans le Sahel, mais aussi avec les terroristes en Somalie ou encore au Mozambique. Dès que Washington parle, les attaques se multiplient. Car évidemment, il faut quand même un prétexte de taille pour justifier une intervention militaire de nos jours. Et grâce à ce terrorisme ou la piraterie, donc Washington continue tout de même de croire que grâce à ça, les pays africains vont crier leur désarroi et vont appeler l'Occident à la rescousse. Eh bien non, les pays africains ne rentrent pas dans ce jeu ces dernières décennies. Le monde entier a été témoin d'une chose primordiale, c'est que partout où les militaires américains ou européens sont passés, la situation n'a fait qu'empirer. Pas un seul pays ne s'en est sorti concrètement, c'est tout le contraire, c'est le chaos le plus total. Alors, avec toutes ces initiatives commerciales qui existent pourtant depuis des décennies, pourquoi l'Afrique n'a jamais pu se développer comme il se doit? Bref, avec tout ça, y aura-t-il encore des pays dans le monde qui seraient assez fous pour demander donc l'aide ou bien une intervention militaire américaine ou française afin de régler le problème de l'insécurité sur leurs terres ou bien leurs problèmes économiques? Cela est très peu probable et c'est pour ça que les Occidentaux ont recours à des pratiques comme des sanctions économiques, des embargos sur les armes, des problèmes de droits de l'homme, donc des soutiens aux rebelles ou terroristes, ou encore des problèmes environnementaux, etc., afin de les obliger à se tourner vers les Occidentaux plutôt qu'à des puissances du bloc de l'Est, notamment comme la Russie, l'Iran ou encore la Chine. Mais si l'environnement ou bien même l'électrification de l'Afrique est si importante pour Washington, pourquoi vouloir à tout prix empêcher l'Éthiopie, par exemple, de mettre pleinement en route le projet du grand barrage de la Renaissance? Pourquoi ne pas aider l'Afrique à utiliser l'énergie nucléaire pour l'électrification du continent? Pourtant, ce ne sont pas les ressources qui manquent en Afrique. Bref, il serait sage pour le continent africain de sortir de ces instances imposées à l'Afrique, soi-disant pour aider à son développement, pour se développer avec ses propres outils et ses propres ressources.
Les dirigeants africains snobent Zelensky. En snobant Zelensky, l'Afrique a donné plusieurs exemples très importants au reste du monde. Zelensky a été complètement humilié puisque seulement 4 dirigeants africains sur les 55 pays du continent ont écouté sa réunion virtuelle avec l'Union africaine, dont l'un était le président du groupe et a donc dû le faire en raison du protocole. Ce ratio ne serait jamais reproduit dans le milliard d'or puisque les dirigeants de ces pays font des heures supplémentaires pour dépeindre leur homologue ukrainien comme le deuxième Jésus, ce qui fait partie de leur plan pour contrôler leur peuple par la création d'une nouvelle religion laïque après que la précédente liée à Covid-19 ait finalement commencé à perdre son emprise sur les masses. Les Africains, cependant, n'ont aucun intérêt à rejoindre ce culte postmoderne et ne se sentent donc pas obligés d'écouter ce faux dieu, d'autant plus qu'ils n'ont aucun intérêt à entendre ces mensonges sur la Russie. Même si certains d'entre eux ont voté contre Moscou à l'ONU sous la pression de l'Occident, pas un seul ne s'est joint aux sanctions à son encontre prises par cette hégémonie unipolaire en déclin. En outre, le président Macky Sall a rencontré le président Poutine début juin, période au cours de laquelle il a condamné les sanctions anti-Russie de l'Occident comme contribuant à la crise alimentaire mondiale, ce qui contredit le faux récit des États-Unis à ce sujet. À peu près au même moment, l'ambassadeur ukrainien en Turquie a révélé par inadvertance la nature artificielle de cette crise lorsqu'il a déclaré que son pays ne reprendrait pas l'exportation de céréales par voie maritime s'il ne recevait pas d'abord certaines armes. Aucun pays qui se respecte ne pourrait plus respecter Zelensky après cela, car il ne fait aucun doute que certains de ses habitants risquent de connaître une plus grande insécurité alimentaire uniquement parce que le dirigeant ukrainien fait du chantage au Sud en exigeant des armes de l'Occident en échange de l'exportation de blé vers l'Afrique et ailleurs. En snobant Zelensky, l'Afrique a donné plusieurs exemples très importants au reste du monde. Premièrement, bien qu'ils soient relativement pauvres, ces pays ont suffisamment de respect de soi pour ne pas écouter quelqu'un dont le pays fait chanter certains de leurs habitants les menaçant de famine. Deuxièmement, leurs dirigeants sont suffisamment rationnels pour ne pas adhérer à la nouvelle religion séculaire du milliard d'or qui se forme autour de Zelensky, ce qui démontre le stéréotype raciste selon lequel les Africains sont facilement manipulables. Et troisièmement, ils risquent courageusement la colère de la guerre hybride de l'Occident en blasphémant avec son nouveau dieu afin d'exprimer collectivement un point de vue de principe. Les observateurs ne doivent pas oublier que plus d'un milliard de personnes vivent en Afrique, ce qui représente une grande partie de l'humanité. En s'unissant pour rabrouer Zelensky au moment où ils s'y attendaient le moins, leurs dirigeants envoient le message qu'ils ne se manqueront pas de respect à eux-mêmes et à leur peuple en témoignant du respect à quelqu'un qu'ils ne méritent pas après que son ambassadeur en Turquie a admis qu'il faisait chanter le Sud en exigeant des armes en échange de blé. D'un seul coup, ils ont montré au milliard d'or qu'ils refusent le statut de partenaire junior envisagé par leur pays et qu'ils continueront à lutter pour leur souveraineté. Le médiateur dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, s'est dit optimiste quant au déroulement des négociations avec les autorités de transition. S'exprimant vendredi au terme d'une visite de 48 heures au Mali, Jonathan a noté des avancées notoires dans les négociations effectuées jusqu'ici par les autorités de la transition. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du suivi de tout ce qui a été entrepris afin d'aider le Mali à sortir de cette situation de crise, a déclaré l'émissaire de la CEDEAO à sa sortie d'une audience avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette crise touche non seulement le Mali, mais également tous les pays de la sous-région, mais aussi les pays de l'Afrique de l'Est, a-t-il rappelé. Jonathan s'est aussi réjoui des avancées constatées de part et d'autre vers une position commune. « Je peux vous dire que nous sommes heureux de constater les progrès effectués jusqu'ici par le gouvernement de transition sous la haute autorité du président de la transition. » Le monde célèbre le 26 juin de chaque année la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Dans le cadre de cette commémoration, le ministre de l'administration territoriale, le colonel-major Omer Bationo, a livré le message suivant. Mesdames et messieurs, le 26 juin 2022, la communauté internationale célèbre la 35e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Dans l'optique de contribuer à lutter efficacement contre le fléau de la drogue, l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 4212 du 7 décembre 1987, instituant cette journée qui est une occasion donnée aux États de manifester leur volonté politique de lutter contre ce fléau à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coopération, mais aussi des activités d'information, d'éducation et de réflexion en lien avec les réalités du pays. En ce jour, le Burkina Faso, à l'instar des autres États, appelle les différents acteurs à une mobilisation autour du Comité national de lutte contre la drogue afin de se pencher plus profondément sur les nombreux défis liés à la drogue au plan national et international. La Côte d'Ivoire, le numéro 1 mondial de la production de cacao, est mise sous pression par l'Union européenne qui représente plus de 67% de ses exportations. En cause, une série de mesures en cours d'application depuis plus d'un an et qui prévoit de n'autoriser l'entrée sur le marché européen que des produits dont la chaîne d'approvisionnement respecte des critères préétablis contre la lutte contre la déforestation, l'amélioration des revenus des producteurs et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Bien que le cacao ne soit pas la seule culture de rente visée, ce dispositif législatif cible l'or brun pour lequel, selon plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales, les exploitations cacaoyères continuent leur extension dans les forêts protégées ou classées. Les exportations de cacao constituent l'une des premières sources de devises pour la Côte d'Ivoire. Le pays a jusqu'en 2024 pour appliquer de nouvelles normes à sa production de cacao, qui représente une récolte annuelle d'environ 2,4 millions de tonnes.